entreprise.
Bonjour, c'est Forêt Recrue à l'Elysée sur Radio 103.2.3 FM et sur Radio Plaisance 95.9 MHz et dans le monde entier sur internet www.radio103.org. Donc, nous avons Michel par téléphone. Bonjour Michel.
Bonjour Alexia, bonjour tout le monde.
Président donc de l'association SOS Hépatite.
Franche-Comté.
Franche-Comté, encore.
Président de la Fédération nationale, mais j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Et je me contente de ma région, il y a déjà pas mal de boulot, entre autres.
Oui, ça c'est sûr. Cette émission est enregistrée, nous sommes le lundi 15 juin, et elle sera diffusée à notre appel le 18. Voilà. Donc, ça chie un peu partout entre la sécu, les malades, tout ça. Tu peux nous éclaircir un peu, Michel ?
Ah ben, sur la sécu, c'est simple, parce que ça fait des années que ça dure.
Ouais.
On peut dire que, bon, là, aujourd'hui, il y en a plein les journaux, particulièrement, le déficit de la sécurité sociale. C'est gros comme tout. Bon, il n'y a pas 50 ans qu'elle est en déficit, hein. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années.
Ouais.
Et ce déficit, c'est pas un secret. L'essentiel de ce déficit, ben, c'est une dette de l'État.
C'est voilà. Ça. Alors qu'on nous fait croire
la
que c'est à cause des malades.
La Cour des comptes nous a dit ça dans un rapport. Voilà. Et c'est les cadeaux qu'on a fait au patron sur les participations, justement. Par le biais des URSSAF, tout ça, les cotisations sociales, les machins, c'est tous ces cadeaux-là, et c'est tout. L'État refuse d'intégrer ça dans les comptes de la Sécu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant qu'elle soit déficitaire, comment elle était ? Eh bien, elle était bénéficiaire. Et quand elle était bénéficiaire, où c'est qu'il est allé l'argent ?
Et oui, mais c'est qui qui l'a ?
J'aimerais bien le savoir. Alors, il y a un principe quand même, il n'y a pas besoin d'être, comment on pourrait dire, un trublion gauchiste énervé, il pourrait dire que quand même, on a des principes qui sont nés dans la résistance, qui était la création de cette sécu, la solidarité nationale,
oui.
Et que, petit à petit, il y a des tas de gens, à droite comme à gauche d'ailleurs, qui passent leur temps à essayer de les renier, en mettant des franchises, en mettant des tas de trucs, en remboursant des médicaments, par exemple.
Prise en charge par le mutuel.
Des médicaments qu'on appelle médicaments de confort. Mais médicaments de confort pour qui ? Ça n'existe pas. Si vous avez une chimiothérapie et que vous avez des problèmes de brûlure de peau, eh ben ces fameuses crèmes ou dermocorticoïdes ou choses comme ça, c'est plus des médicaments de confort. Il y a des gens qui ont des certaines maladies chroniques qui ont besoin de prendre, je pense à des gens qui ont la mucoviscidose. Ils ont besoin de prendre de la cystéine, des choses comme ça. C'est considéré comme médicament de confort.
Oui, c'est ça.
Il y a des gens qui ont besoin des choses pour la circulation, pour les veines, des toniques veineux et tout.
Oui, ça c'est plus remboursé.
Si vous n'êtes pas gravement malade, ça, c'est un médicament peut-être de confort, mais il y a des gens qui ne peuvent pas marcher sans ça.
C'est ça.
Et on dérembourse. Et on tape sur les vieux, et on tape sur les...
C'est surtout les effets secondaires, en fait, de certains médicaments qui, eux, sont pris en charge totalement. Et pour contrer ces effets secondaires-là, là, on ne rembourse plus.
Ouais.
Faut que les malades crachent.
La sécurité sociale, à l'heure actuelle, elle sert, entre autres, en partie, à engraisser des gens comme les laboratoires médicaux. Puisqu'ils sont très malins, vous avez vu l'histoire des génériques. Moi, je vous cite un exemple qui est vraiment génial. C'est un des médicaments les plus prescrits en France, c'était le Mopral. C'est un médicament qui aidait, pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, soit avec un traitement ou un ulcère ou un truc, ça permettait d'éviter d'aggraver le truc. Bon, ça... Et quand ils ont su que ça allait passer le générique, c'est un médicament qui coûtait très cher. Quoi. Je crois qu'à l'époque, en France, c'était 400 francs, 8 gélules, un truc comme ça. Quoi. Et c'était un des plus prescrits. Quoi. Ça accompagnait les médicaments qui faisaient des trous dans l'estomac. Quoi. Certains antibiotiques, on mettait systématiquement du Mopral. Et quand le brevet est passé dans le public, il allait avoir des génériques, Eh bien, la grosse boîte qui fabrique ça, rien que trouver mieux, de créer un nouveau produit qui s'appelle Inexium, où à la base, c'est la même molécule que dans le Mopral, et ils se sont mis à cartonner avec ça pour remplacer le Mopral. Enfin. Donc voilà, on paye des médicaments très chers, alors qu'il n'y a plus beaucoup de recherche et plus beaucoup de médicaments réellement innovants. On paye des médicaments très très chers, c'est la Sécu qui fournit les labos qui sont cotés en bourse.
Oui, c'est ça, le lobby pharmaceutique et tout.
Et par le biais aussi du financement des cliniques privées, on finance les trucs américains, là, les trucs de retraite, les fonds de pension américains.
Les fonds de pension, oui.
Ils sont tous plus ou moins propriétaires des gros groupes de cliniques privées en France. Donc, on assiste à une chose, c'est que si vous êtes pauvre, vous allez vous faire soigner l'hôpital public qui est de plus en plus dépouillé. Si vous avez un peu de thunes et une bonne assurance, et ainsi de suite, vous allez dans les cliniques privées qui se font des prix d'or. Vous avez entendu parler aussi des tarifs des médecins. Il y a des gens qui pratiquent des tarifs qui sont prohibitifs.
Oui, c'est ça. Et puis, justement, pour le lobby pharmaceutique et tout, j'ai écouté ça la dernière fois. En fait, ils font des cadeaux aux médecins quand ils prescrivent je ne sais plus combien de boîtes de je ne sais quel médicament.
C'est de plus en plus, parce que justement, là, on peut parler un peu du rôle quand même des associations d'usagers. C'est oui. De plus en plus contrôlé, de plus en plus sévère et sérieux. Ils n'ont plus trop le droit de communiquer directement avec les malades. Pour les médecins, il y a encore quelques astuces à les inviter à des congrès, à les prendre en charge. Mais les cadeaux, là, c'est terminé. Hein. Ça, c'était il y a encore une dizaine d'années. Ils détournaient, ils organisaient un séminaire aux Bahamas, un truc, quoi. Mais le cadeau, genre la télé écran plat, machin,
c'est ouais, fini. C'est fini, ça, il n'y a
ça,
plus.
Fini, ils peuvent plus.
C'est le lecteur DVD.
Ils peuvent même plus distribuer aux malades un stylo avec le nom du labo.
Ah oui.
Ah, c'est strict, hein. Je veux dire, on a des rares pays où c'est bien strict. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, ils ne se privent pas, ils font même de la pub. Ici, ils ne peuvent pas faire de la pub pour un indicateur. Mais ça, c'est des choses qui, petit à petit, ont été grattées par les associations d'usagers. Je dis d'usagers, c'est-à-dire pas rien que de malades. Parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, on s'est regroupé quelques associations de malades, des associations de consommateurs et des associations familiales. Et on avait créé un collectif interassociatif sur la santé, le CIS. Il y a des CIS régionaux un peu partout maintenant, les CIS nationales. Alors au début, c'était complètement informel, on n'avait pas de statut, de truc, d'existence légale. C'était les grosses assos qui prêtaient à la fois quelques personnes et puis des lieux de réunion. Et ça nous a amené à discuter avec le gouvernement de l'époque, suite aux assises de la santé, qui avaient été organisées en 97-99 par là, enfin. Et ce qui a amené ce qu'on a appelé la loi de démocratie sanitaire, c'est-à-dire la loi Kouchner de mars 2002. Et cette loi était importante pour les malades et les usagers en général, parce qu'elle a fixé quand même des principes assez importants, à la fois dans la représentation des usagers dans les instances médicaux. Avant, on n'était pas dans les conseils d'administration d'hôpitaux, dans les groupements.
Et maintenant, il y a les associations de malades sont au conseil d'administration et tout ça.
Oui, alors on a un rôle qui est minime, parce qu'en général, il y a 2 ou 3 représentants, mais ça permet quand même d'avertir les gens, et puis aussi de pouvoir faire... Bon, il y a des endroits où on a quand même mis le paquet sur la façon dont on était accueillis, et ainsi de suite, qui n'est pas toujours la joie dans les hôpitaux.
Non, ça c'est sûr.
De pouvoir avoir accès à de la médiation, à de la représentation, c'est que les gens ont le droit d'être accompagnés.
À l'information.
Oui, c'est quand même très important. Et puis, ça a surtout amené le droit pour les malades d'être informés complètement,
oui.
De posséder tout leur dossier, d'avoir une copie de leur dossier, les lettres que le médecin a fait à un autre médecin, enfin, toute l'information sur son propre... C'est ça, le droit d'accès qui est reconnu, donc, maintenant, dans la loi sur la santé publique. Hein.
Bah ouais, mais moi, je vois, c'est pas beaucoup appliqué, hein. Je parle pour mon cas.
Bah, le, problème,
À chaque
c'est...
fois, je demande les comptes rendus et tout. Il me dit non, non, je le passe à votre médecin, vous, c'est pas grave. C'est assez difficile d'avoir accès, hein, à tout ça.
Non, le problème, c'est qu'il faut le demander formellement. S'il veut pas, faut lui adresser une lettre en disant, voilà, il faut le sommer. Parce que c'est obligatoire.
Oui.
C'est obligatoire. Alors, la loi, elle est claire, hein. C'est dans l'article R710-2-2. Donc, il y a un petit alinéa 4.1. Les observations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées en établissement, lors de l'accueil au service des urgences au moment de l'admission, au cours du séjour, notamment, alors c'est tout détaillé, la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation, les motifs d'hospitalisation, la recherche d'antécédents, les conclusions de l'évaluation, enfin, il y en a, le dossier anesthésie, le compte-rendu opératoire, le consentement, les mentions des actes transfusionnels, les éléments, il y en a. Tout ça doit être fourni. Et puis, à la sortie aussi, le compte-rendu, la lettre rédigée à l'occasion de la sortie, tout ça doit être fourni au malade sur sa demande.
C'est ça, faut être
Double
armé.
désordonnance de sortie, la modalité de sortie, la fiche de liaison. Et voilà.
Ça
Ça,
faut
ça
pas
a aussi
garder.
agi sur un ensemble de principes. C'est le droit de... Moi, je trouve ça important. Le droit de ne pas se soigner si on veut.
Oui.
Le droit de ne pas informer son entourage sur une maladie. Avant, les patients, les médecins passaient par-dessus. Hein.
Ah
C'est
bah
un
c'est
mec, on lui
clair.
annonce qu'il a le cancer, il n'a pas envie de le dire à sa famille, il ne s'y cause plus. Ah, le médecin téléphonait à la belle-sœur ou je sais pas quoi, en disant, ouais, je suis obligé de...
Il prévenait avant la famille, moi ça m'est arrivé ça. On prévient d'abord la famille avant le patient.
Ouais, ça, c'est plus possible.
Bah ouais, mais ça,
Mais alors, le
ils se
problème,
font
c'est
quand même. Hein.
que... Il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire est-ce que c'est pratiqué partout et tout, et c'est là où les associations essayent d'être certaines, d'être un peu vigilantes, ou de représenter les malades, d'aller chercher des dossiers, il fallait carrément être recommandé, sommation. L'hôpital disait qu'ils avaient perdu le dossier, ou ainsi de suite, ça peut aller loin, quoi. Parce que quand c'est un dossier dont on a besoin pour prouver qu'on a reçu du sang à l'époque où il n'y avait pas le dépistage, par
Oui.
exemple, pour une indemnisation, c'est grave, quoi. Donc voilà sur un peu le droit des malades, mais c'est-à-dire qu'on nous donne des droits, mais on ne nous donne pas les moyens aussi de les appliquer.
Voilà, les savoir. Bon, on va faire une petite pause musicale et puis on revient.
Ok.
Regarde là-bas, le gros méchant Condé. Il y avait trois petits quepons avec des jolis blousons. Des hot cat comme des sardines et des cheveux décolorés. Le premier petit quepon faisait de jolies chansons. Et le samedi soir, avec sa guitare, il jouait le rock'n'roll.
Ah ah ah, je vais t'attraper, je suis le gros, le méchant Condé.
Qui a peur du méchant Pasois? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant Pasois? Tra la 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 la. Il ne nous attrapera pas, sûrement pas, sûrement pas. Il ne nous attrapera pas.
Dans l'espoir avec ses copains canards.
Le troisième petit quepon avait de l'imagination. Il rentrait du bar tous les samedis soirs avec son ami Babar.
Oh oh oh, je vais t'attraper, je suis le gros, le méchant Condé.
Qui a peur du méchant Passois? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant Passois? Tra la 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 la. Il ne nous attrapera pas, sûrement pas, sûrement pas. Il ne nous attrapera pas.
Tac, tac, tac.
Qui ça?
C'est le petit chaperon rouge.
Non, 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 nous ne voyons pas. Tu t'es trompé d'histoire.
Je vais vous attraper. Je vais tout casser. Je vais verbaliser.
Il y avait trois petits quepons, à la queue en tire-bouchon, avec des hot-cats, des ceintures bleutées et des cheveux décollés.
Forêt reclue à l'Elysée sur Radio 103.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Donc, nous venons d'écouter Les Trois Petits Quepons. Et voilà, nous sommes toujours avec Michel, car je ne suis pas là toute seule. Il y a Fabrice à la technique. Et Michel, au bout du fil. Donc, nous parlions de la représentation des malades.
Oui, comme je disais tout à l'heure, donc, suite aux états généraux de la santé en 98-99, il y a eu une demande d'un cadre d'expression, on va dire, et de participation des usagers du système de santé. Et donc, cette fameuse loi de démocratie sanitaire, dite parfois aussi loi Kouchner, il n'y a pas fait que des conneries. Oui,
avec les salles de...
Ainsi, cette loi, elle reconnaît désormais un rôle, on va dire, aux associations de malades en intégrant un chapitre dans la loi qui est au chapitre 4, c'est participation des usagers au fonctionnement du système de santé. Donc, les associations peuvent disposer d'un agrément qu'elles demandent. On a travaillé avec l'État sur les définitions de l'agrément. Il ne peut pas y avoir une association, par exemple, dirigée que par des médecins pour être agréée à Sceau Santé. Il ne peut pas y avoir une association dont les revenus sont que des dons d'un labo. Il faut qu'elle ait des ressources propres. Donc, il y a une garantie un petit peu de sérieux. Hein. Il y a beaucoup qui l'ont demandé. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes qui ont eu. Il faut une représentation nationale, enfin bref. Et ces associations agréées, donc on a modifié le code de santé publique et elles peuvent représenter dans des instances compétentes en matière de santé. Et ces instances, c'est à la fois dans les hôpitaux, hein, en général, tous les hôpitaux, et puis dans la santé publique. Alors, il y a les conseils d'administration, je vous l'ai dit, des établissements hospitaliers, 3 membres. La commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge. Ça, c'est...
Ah, c'est toi,
qui
ça.
Accueille 2 représentants. Alors ça, c'est très important, parce que quand il y a des gens, faut le dire aux gens, quand ils vont à l'hôpital, ils sont pas contents d'un truc, de l'accueil, ça s'est mal passé et tout, ils peuvent demander à voir cette commission, et donc là, aller même plus loin avec... Et là, il y a des usagers qui, en général, les gens qui sont là, défendent bien les malades, hein. Il y a 2 représentants des usagers de l'hôpital qui assistent avec voix consultative au comité de lutte contre l'infection nosocomiale, ça c'est important, très important, ce qu'on appelle les CLIN. Et puis il y a la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ce qu'on appelle CRCI en abrégé. Ça c'est hyper important, ça a été tout nouveau avec la loi de 2002, ça a mis du temps pour être mis en place. Moi j'ai siégé pendant 2 ans à Besançon. Ça permet de faire des recours amiables. Il y a une commission, il y a des représentants de l'hôpital, des médecins, des ordres médicaux, des assurances, des usagers, ainsi de suite. Par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune fille, son papa était emmené aux urgences et il est décédé d'une façon assez bizarre. Le médecin a mis du temps pour arriver, enfin des trucs. Bon, elle n'est pas contente, au lieu d'aller au tribunal,
voilà,
elle a 3 ans pour y aller. On fait un dossier et là, elle est examinée par cette commission qui est très paritaire et qui peut décider d'indemniser justement le préjudice et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pas un super truc, mais ça permet à des gens d'éviter d'aller au tribunal, d'engager des frais, d'avoir des procès. Ça leur coûte rien, on va dire. Je veux dire, quand nous, on était 2-3 représentants d'usagers à cette Besançon... Je veux dire, ils n'avaient pas trop la parole en face. Hein. Alors, c'est présidé par un juge qui est nommé par le ministère, hein, un juge professionnel. Moi, j'accompagnais les malades qui étaient pas pris, leur dossier n'était pas pris, parce qu'il n'y avait pas assez de dégâts ou des choses comme ça. Il faut au moins 25% de dégâts. Enfin, bref. J'accompagnais les gens et je leur disais, maintenant, je vais vous donner l'adresse d'avocat d'une association qui défend que des victimes comme ça. Mais faut aller au tribunal administratif, là, faut faire ci, là, faut faire ça. On continue à les suivre, à les aider pour qu'ils... souvent, c'est pas tellement l'histoire de l'argent, mais c'est pouvoir faire son deuil quand on a perdu quelqu'un.
Ça, ouais.
Moi, j'ai eu une dame qui avait des triplés, il y en a un qui est mort, on sait que ça a été infecté par des biberons qui étaient mal désinfectés. En néonatal, c'est dur, quoi.
Ouais.
Et donc, pour pouvoir... souvent, pouvoir faire son deuil, pouvoir passer plus loin, quoi. Faut qu'on soit au moins reconnu qu'on a été victime de quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique, ou s'il y a des responsables. Alors, dans les hôpitaux publics, les soignants sont même pas nommés dans le dossier, c'est l'État qui est responsable, donc faut pas hésiter à être là.
C'est clair.
Mais par contre, avec les clinique privée, là, les médecins sont responsables. Alors, là, ils tirent un peu la gueule, quoi. Donc il y a CCR-CRI, ça c'est important. Et puis il y a des instances qu'on appelle de santé publique, c'est là où s'élaborent les grands programmes et machin. Alors, il y en a un qui est important, c'est l'établissement français du sang, hein. Ça, on l'avait eu avant 91. Oui. S'il y a eu des malades avant 81, on aurait peut-être évité le scandale du sang contaminé. Puis il y a le Haut Conseil de santé publique qui définit l'orientation des politiques de santé publique. Il y a la Conférence nationale de santé, d'où sort chaque année ce qu'on appelle, c'est des termes barbares, hein, PLFSS, c'est projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est présenté par le gouvernement tous les ans à l'automne. Il est soumis à un avis de la Conférence nationale de santé, quoi. Elle peut donner aussi un avis sur... Alors là, il y a des malades qui sont présentés. Il y a l'ancien président de AIDS. Enfin bref, il y a des gens qui font un vrai boulot, quoi. Oui. Et puis, alors, au niveau de la région, on a ce qu'on appelle les conseils régionaux de santé. Ça, c'est eux qui définissent, contribuent la mise en œuvre des politiques régionales de santé. Bon, alors, il y a des priorités régionales. On dit, par exemple, on fait un plan, sur le suicide des jeunes, sur telle pathologie qui est prédominante dans la région. Ils ont le pouvoir de faire des choses en manière de prévention, dépistage, soins, aide aux soins, et ainsi de suite. Et là, il y a pas mal de malades, il y a un collège de représentants d'usagers, donc, qui est important, parce que ça peut permettre de pousser des projets qui ne seraient pas vraiment défendus. Et puis, les associations agréées, ben, elles peuvent rester en justice, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles peuvent défendre les intérêts collectifs. C'est-à-dire que nous, on a été amenés à faire ça, l'association de soins hépatites, à un moment donné, où il y a un centre d'hémodialyse, qui était un centre privé, où les gens qui venaient faire leur dialyse, il y avait du personnel pas formé, sous-payé, pas spécialisé, et on a eu 27 contaminations par l'hépatite C dans le centre, la même semaine, donc... On a pu aider ces gens-là à s'organiser, aller en justice, ainsi de suite. Et puis après, il y a les membres du conseil d'administration d'un établissement public de santé. Ils sont reconnus, ils ont ce qu'on appelle, comme les syndicalistes, le droit au congé de représentation. Chose qu'on n'avait pas avant. C'est quelqu'un qui bossait, qui était représentant d'usagers, il allait à la sécu... à la commission, au conseil de sécurité sociale ou à CRCI, ben, il n'était pas indemnisé de sa journée, quoi. Il était, c'était pour lui, quoi.
Oui, c'est ça.
Il n'avait pas le droit de prendre un congé. Alors, on n'est pas indemnisé, mais on peut prendre sur notre temps de congé. Avant, on ne pouvait même pas, quoi. Et puis, surtout, on est assuré, il y a des droits qui sont normaux, quoi. Alors, moi, ce que je reproche à cette loi avant tout, c'est que les idées sont super belles, hein. Tout ce qu'elle dit, moi j'adore totalement, mais les moyens pour les assos d'exercer leur rôle et tout ça suit jamais, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est là où c'est ridicule.
Et que l'information passe et tout ça, parce que c'est vrai que quand on a n'importe quelle pathologie, par rapport à l'information et l'isolement, c'est...
Moi, ça fait bien plaisir que tu dises ça, tu vois, parce que je vais te dire, moi, je vais beaucoup plus loin, et ça rejoint l'histoire du déficit de la sécurité sociale. En France, on a privilégié des choses, et on a soi-disant le meilleur système de santé du monde, oui. Ça devient faux par rapport à d'autres pays, il y en a au moins 8 qui passent avant nous, parce qu'ils ont su mettre en place ce qu'on appelle de la prévention. Et la santé, c'est un truc, tant qu'on n'est pas malade, on n'y pense pas.
C'est ça.
Si à l'école primaire, on apprenait déjà les fonctions du corps, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait quand on mange, à quoi ça sert de, je sais pas moi, l'hygiène, des choses comme
de
ça,
se protéger.
De base, hein, qu'on n'apprend pas du tout.
Non.
Et on est déboussolé quand on est malade, parce qu'on ne sait pas. Si on savait comment agissent les principales maladies, on est complètement déboussolé, on ne sait pas, et on ne fait pas de prévention. On fait mal, on fait pas beaucoup, on fait mal. Là, à l'heure actuelle, ce qui coûte cher à la sécu, c'est que comme les gens sont de plus en plus pauvres et ne vont plus chez leur médecin, eh ben, ils arrivent à l'urgence, aux urgences, dans des situations catastrophiques.
C'est ça.
Et l'urgence, eh ben, elle peut pas tout faire non plus. Et si ces gens-là avaient eu les moyens d'aller voir gratuitement un médecin, des fois 3-4 mois avant, la pathologie qu'ils ont ne serait pas aggravée. Il les aurait guéris facilement avec 3 médicaments qui coûtent rien. Et ça veut dire qu'il faut investir dans la santé. Et nous, on regarde au coût tous les jours. C'est nous, je dis nous. Les différents gouvernements, ils regardent combien ça coûte aujourd'hui. Non, ça c'est trop cher. Et on tape de plus en plus, une fois de plus, c'est les pauvres qui
font. C'est les pauvres.
L'objet de tout ces trucs-là. Une mamie qui a, ou un papy qui a le minimum vieillesse, qui est hospitalisé une semaine, qui n'a pas de mutuelle, si jamais plus la payer, qui a le forfait hospitalier, et déjà il a des médicaments, il a les frangises de 50 euros, de machin. Et quoi il bouffe sur ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Il va 10 jours à l'hôpital, il est ruiné, le mec, il n'a plus rien.
Hein. Ouais, faut être riche pour être malade.
Faut être riche pour être malade, mais en plus, c'est... ce qui est dégueulasse, c'est qu'on donne pas les moyens aux gens de ne pas être malade.
C'est ça.
Donc, on devrait apprendre dès le plus jeune âge à l'école à quoi sert le corps, comment ça fonctionne. On regarde bien de parler ça, on ne sait jamais, des fois qu'ils ont envie de s'en servir. Non, mais c'est vrai, il y a une histoire de puritanisme aussi, judéo-chrétien.
Oui, tout à fait.
Parler des fonctions du corps, parler des choses comme ça, parler des maladies, oh non, les pauvres bambins. Et c'est quand c'est banalisé, moi je vois les sociétés nordiques qui sont vachement en avance là-dessus, ils ont des programmes de prévention qui sont top, les gens savent de quoi ils parlent.
Et même à l'école publique, hein, moi je vois là, les enfants un peu handicapés, un peu machin, ils sont pas acceptés du tout.
Bah, les malades, on les isole.
Et il faut vraiment pas qu'ils se mélangent du tout avec ceux qui sont cons, mais sur deux jambes, quoi. Donc,
La société est sécrétationniste. Les malades, faut les cacher, les vieux, faut les cacher, les difformes, faut les cacher.
C'est ça.
Les handicapés, faut les cacher, quoi. Faut pas, surtout pas les mettre avec les autres.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'isolement, mais... parce que de toi-même ou de même, n'est-ce pas, les malades se renferment comme ça. Et comme ils ne savent pas, justement, tout ce que tu viens de nous dire par rapport aux droits, par rapport à ce que il faut absolument justement voir en association et communiquer le plus possible afin d'avoir nos droits, puisque même malade ou même handicapé ou même tout ce que tu veux, ben il y en a. Donc au lieu de s'auto-détruire encore plus, faut...
Même ce que tu dis sur la formation, hein, nous dans l'association SOS Hépatite, on a plusieurs séances de formation par an où les gens viennent, ils ont une formation biomédicale, on leur apprend à quoi sert le foie, comment fonctionne l'hépatite, ainsi de suite. Et donc c'est important parce qu'après ils peuvent en parler à d'autres et expliquer à d'autres et les rassurer.
C'est ça.
Souvent c'est les rassurer parce que quand on ne sait pas comment fonctionne la maladie et tout, il y a des tas de trucs qui passent dans sa tête. Nous ce qu'on veut, c'est si on n'arrive pas à guérir, c'est vivre le mieux possible avec sa maladie.
C'est
important, on parle de qualité de vie. C'est-à-dire je suis malade, ok, mais je t'emmerde, je veux vivre correctement quand même, j'ai des droits.
Ouais.
Le problème c'est que les gens ils savent pas leurs droits, ils connaissent pas la maladie. Et surtout... ils hésitent à en parler, ils sont mal entourés, les gens ont peur de ça, on est stigmatisé. Quelqu'un dans un fauteuil, quelqu'un qui parle pas comme vous, qui a un peu parce qu'il le mec il peut être, enfin il y a qu'à voir Stephen Hawking, quoi.
Oui.
Attends, c'est pas sans doute le plus grand cerveau qu'il y a eu sur la planète depuis Einstein.
Oui.
On lâche ce mec-là dans mon bled là, au milieu de la rue. Putain, mais il va prendre des coups de pied, quoi. On va le foutre dans la rivière, quoi.
C'est ça, le truc.
On va voir sa tronche et on va dire c'est quoi ce déchet, on va le pousser, quoi.
C'est ça, on va le pousser dans le ravin ou dans la rivière, ouais.
Et jolies rivières, si on apprenait à vivre avec les malades, à vivre avec la maladie et puis à les aider, ainsi de suite, ça serait complètement différent, quand même.
Il y a le rapport avec le médecin aussi, qui est assez difficile,
souvent. Le rapport avec le médecin, ça, c'est terrible. Alors, il y en a qui changent, hein. Il y a des jeunes qui sont formés et tout. Mais il y a des médecins pour qui c'est difficile, quoi. Partager le pouvoir, c'est pas facile. Hein. Normalement, vous êtes objet.
Oui.
Non, je veux être sujet.
Non, je suis une pathologie.
Bah non, écoutez, soit vous faites ça, soit vous allez voir un autre. Hein. Moi, j'en ai vu des radicaux comme ça.
Ah ouais?
Écoutez, madame... je répondrai bien à votre question, mais vous avez vu combien de malades il y a dans la salle, alors faites comme je vous dis, puis ça ira bien.
Ouais. Prenez les médocs.
Elle sort, elle est pas contente.
Posez pas de questions, parce que c'est votre maladie, c'est pas la mienne, mais moi j'ai étudié pour ça, donc je sais mieux de vous. Bon, on va refaire une petite pause musicale.
Le son comme ce brochette. Sur mon lit. s'étale une dernière fois. Je pense à toi, juste avant mon dernier soupir. Je repense à tout ce que tu m'as fait subir. Mais dans la forêt, là où le hibou allait cette petite, oui, dans la forêt, tout est beau, tout est joli.
Yes, man, fire dans la party. Allez, push, push, push ton party.
Sur mon lit d'hôpital, une dernière fois, je pense à toi. Juste avant mon dernier soupir, je repense à tout ce que tu m'as fait subir. On my bed in the hospital, yes, one last time, it made me think of you. Just before my last whisper,
Forêt reclue à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et sur 95.9 MHz sur Radio Plaisance. Voilà, donc je lis un petit truc de la CNT, Santé Sociale et des collectifs territoriaux. C'était un appel pour une manifestation le mercredi, je crois que c'était le mercredi, oui, 10 juin. Donc voilà. Tous en grève et en manifestation pour le retrait de la réforme contre la rentabilisation du social, pour l'amélioration des conditions de travail et pour une augmentation des salaires. La convention collective 66 est attaquée par des syndicats patronaux. Ne laissons aucune place aux bureaucrates, gestionnaires, profiteurs du social. Tous en grève et dans la rue le 10 juin 2009. Les établissements sociaux et médico-sociaux sont malmenés par des financements insuffisants, par une remise en cause et un contrôle permanent des pratiques des professionnels et par un abandon de la sphère publique. Or, les syndicats de patrons proposent d'entériner cet état de fait et d'inscrire dans le marbre la précarisation des travailleurs, la médiocrité des services envers les usagers et la notion de performance économique dans nos structures. La nouvelle CC66 ne se cache pas d'accentuer un salariat précaire. Au lieu de favoriser la qualité du travail en axant sur la formation pour tous, diplômés ou non, elle vient créer des filières de formation peu qualifiantes et peu rémunérées pour des fonctions qui existent déjà. Selon l'esprit à l'œuvre dans cette réforme de la 66, il ne s'agit pas d'ouverture, entre guillemets, pour les personnes peu ou pas diplômées, mais plutôt d'une façon de réduire le coût salarial. La réforme de la CC66 a pour but une baisse globale importante du coût de travail social. Un arsenal de mesures permet à l'employeur de rendre plus précaire et donc plus corvéable le salarié. Période d'essai étendue à 2 mois au lieu d'1 pour les cadres. Flexibilité dans la répartition des heures de travail hebdomadaires. Salaire individualisé au mérite. Cette nouvelle convention va également s'inscrire dans un contexte où le travail social et sanitaire voit son activité contrainte par une commande d'État extrêmement pesante, visant la rentabilité et la performance. Les logiques entrepreneuriales investissent largement les établissements à l'heure où les usagers sont de plus en plus précaires, de plus en plus nombreux et où le besoin de nouvelles structures pour de nouvelles problématiques se fait largement sentir. La pression budgétaire constante est déjà une influence négative sur la qualité du travail. Notre secteur connaît une pénurie de moyens flagrants, mettant à mal nos pratiques. La réforme de la CC66, voulue par les patrons, donne la part belle à la rentabilité de l'action sociale, sanitaire, éducative. Nous savons que ces politiques induisent nécessairement une mécanisation de l'action sociale dans son ensemble, une déshumanisation de liens entre travailleurs et usagers. Le professionnel ne sera plus qu'un outil productif, technique, performant, exigeant l'augmentation des salariés et la diminution du temps de travail. Refusons la précarité orchestrée par les gouvernements et les patrons et les patronnes pour mieux nous asservir. Et donc, après cette manifestation-là, n'est-ce pas, il y a eu encore des dégâts un peu partout, puisque ça a tapé pas mal. Là, ça a été lu sur un site aussi. Donc, quand la police gaze les éduque et que tout le monde s'en fout, le 10 juin à Paris, le milieu médico-social s'est retrouvé à Paris pour aller manifester son opposition à la refonte de la Convention 66. Pour la petite histoire, cette refonte est proposée par les syndicats patronaux du secteur. Pas la peine de vous faire un dessin sur la manière dont ça foutrait le bordel si ce truc-là était signé. Dans la foulée du fichage des enfants, de la loi sur la délinquance, de la remise en cause de l'ordonnance 1945, de la future intégration des flics à l'école, voilà que les éduques devraient devenir des techniciens, techniciennes, que notre boulot sera noté et payé selon une grille de compétences et d'efficacité. Entre parenthèses, vu le contexte, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous vont continuer à bosser avec les chômeurs et les chômeuses. Que le nombre d'associations va diviser par 10, du coup, où sera la liberté et la créativité dans la pratique? Et je vous parle même pas de l'évolution des salaires et des retraites. Tout du moins pour nous, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour nos chefs de service. Enfin, voilà pour le décor. Ça fait donc quelques mois que nous nous mobilisons, réunissons, créons des collectifs de lutte aux quatre coins du pays et que personne n'en parle. Quant aux négociations, aucune place n'est laissée aux revendications des salariés et étudiants. Les patrons gèrent les discussions avec les syndicats présents et les stoppent à leur gré, souvent à cause de la violence des manifestants, entre parenthèses. Dixit, la CFDT. Du côté syndical, la CGT fait sa sauce en solo. FO tente de bloquer les négos pour proposer d'ici 6 mois un projet plus à même de valoriser le travail social que de le désintégrer comme voulu par les patrons et les patronnes. Quant à Sud, pas présent durant les négos, manque de représentativité, il paraît, il mobilise ses militants, militantes et tente par la rue de faire sauter le projet. Donc le 10 juin, début de manif place de l'Opéra à 11h30, 5000 personnes dans la rue pour défendre nos valeurs, nos acquis, notre manière de travailler avec les jeunes et les moins jeunes. Les collectifs étaient présents de partout, on gueule dans tous les sens, on fait du bruit, nous ne nous laisserons plus faire. Faut dire que d'habitude, ils sont sympas les éduques, ils, elles, se montrent pas trop. Ils, elles, font leur boulot malgré les coupures budgétaires et des lois de plus en plus restrictives et répressives. Ils, elles, tentent de défendre la liberté et le droit à l'autonomie des personnes avec lesquelles ils, elles, travaillent. Mais là, faut plus pousser. Du coup, présents et motivés, dans la rue à Paname et ailleurs, arrivés devant le lieu où les uns négocient pour les autres, ceux et celles qu'on n'écoute pas et à qui l'on vend une gestion capitaliste d'un univers humaniste, accueillis par une vingtaine de camions de gendarmes mobiles et des coups de gazeuse pour pas qu'on s'approche de trop près, des pontes qui discutent de l'avenir de nos métiers. Mais personne n'en parle et tout le monde s'en fout. C'est pas faux de dire que les éduques fonctionnent un peu en vase clos, qu'il faudrait que nous parlions un peu plus de nos métiers, mais là, on fait ce qu'il faut pour communiquer et pour sauver un milieu qui, sans doute, permet au pays de ne pas exploser, mettre des flics dans les écoles et pourrir le monde de social en voulant en faire un milieu concurrentiel, c'est lâcher les lions dans l'arène. Donc ça, ça a été lu sur un site qui est Bella Ciao, et ce n'est pas signé. Et voilà. Donc, Michel.
Ouais, voilà, moi j'entends ce que tu viens de dire là, et dans le cadre de la santé, on est dans le même cas de figure dans ce sel. Hein, la réforme en cours, ça pousse les hôpitaux à rentabiliser leurs pratiques au détriment du suivi. Par exemple, il y a un truc monstrueux qui s'est passé, c'est-à-dire depuis 2007, il y a eu un nouveau système de tarification hospitalière, qu'on appelle la T2A, tarification à l'acte, AA à l'acte. Était mis en place avant, les ressources allouées aux hôpitaux, en fait, on regardait par rapport à un budget de l'année précédente, et puis il y a eu plus de malades, donc on augmentait le budget, désormais on calcule à l'activité. Et cette activité, c'est comment elle est mesurée. Et qu'est-ce qu'on mesure ?
Comment ils font ?
Alors nous, on défend, parce que il n'y a pas longtemps, on a mis des années pour avoir ça, l'éducation thérapeutique du patient. On sait que des gens arrivent à mieux vivre avec leur maladie quand ils suivent l'éducation thérapeutique. Comme on ne peut pas la prescrire, qu'elle n'est pas encore codifiée, et ainsi de suite, ça se faisait, entre autres dans le VIH, dans un centre de pathologie, où il y avait des infirmiers qui étaient détachés pour travailler avec le malade sur la compliance à son traitement, sur le psychosocial. Il y avait des aides, il y avait des assistantes sociales qui intervenaient à l'hôpital, des tas, il y avait un travail pluridisplinaire.
Ah, je tenais pas du tout.
Le type venait passer une journée ou une demi-journée à l'hôpital, on lui faisait ses prélèvements. Par exemple, s'il devait se piquer lui-même, il avait un petit atelier où il apprenait à se piquer, il apprenait à bien prendre ses médicaments, enfin, il avait droit à des tas de trucs. Et dans le VIH, c'est hyper important, parce qu'il y a vraiment des... autant les traitements, sont efficaces, ils t'empêchent de mourir, mais il faut voir un peu ce que ça te donne comme saloperie et tout, et... Et bien maintenant, pour comptabiliser ça en actes, c'est vachement dur. Quoi. Et qu'est-ce qu'on compte ? Une infirmière qui passe 45 minutes avec un malade pour l'aider à prendre son traitement correctement,
à
l'aider à résoudre des problèmes sociaux aussi, des fois, dire à qui il faut qu'il s'adresse pour tel ou tel jour. Alors, surtout chez des gens précaires, des gens démunis, des gens mal informés, des gens qui parlent pas la langue, enfin tout ça. On aura tendance maintenant à dire il y a une consulte, point, et puis dégage, quoi. Tu vois, un patient par exemple qui a une tuberculose qui doit être soigné plusieurs mois, il n'est pas rentable, quoi. Donc comment on va le tarifier à l'acte, ce mec-là? On peut pas. Alors ça, c'est déjà ça, et puis le grignotage, et puis de moins en moins de personnel dans les services. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de maladies où on a besoin d'accompagnement social, d'éducation thérapeutique, de prévention. Et c'est l'hospitalisation de jour qui permettait ça. Ou les soins en ville, quand c'est une bonne maison du patient ou des trucs. Mais là, ça ne va plus être possible. Il y a des médecins, moi j'en connais beaucoup, la consultation avec un patient dans le cadre de l'hépatite, c'est entre 45 et 60 minutes. Et donc, pour 23 euros, pas possible. Donc ces gens-là, maintenant, comme leur temps de travail sera facturé 23 euros à l'hôpital, soit ils continuent, puis l'hôpital va être complètement endetté, c'est déjà, de toute façon, ou soit il y en a qui le font déjà, c'est 5 minutes, et puis au revoir. Voilà comment on essaye de grignoter absolument tout ce qui... Or, le manque de personnel, je te dis pas, dans les hostos à l'heure actuelle, faut voir. Hein, moi, je rencontre régulièrement des infirmières. Elles sont au bout du rouleau. Hein.
Ah oui, non, mais elles en peuvent plus, là.
Il y a des services où tu te demandes comment ils arrivent encore à tourner.
Ouais.
Et elles peuvent même plus prendre leur congé ou des trucs comme ça, quoi. Les RTT, c'est terminé.
Tout un service, elles sont plus de deux, parfois, et tout. C'est assez...
Alors c'est marrant parce qu'à l'occasion du projet de loi de Bajot, là, on a vu quand même des médecins descendre dans la rue avec les soignants et tout, et des gros pontes, hein. Et même des médecins de droite, comme de base, il est venu défendre son hôpital, je trouve ça c'est pas mal. Mais l'idée du gouvernement, c'est de confier ça à des gestionnaires formés, formatés par eux à l'École nationale de santé publique, hein, les directeurs d'hôpitaux, qu'en auront rien à foutre de la dimension psychosociale et de l'hôpital comme il est en France. En France, n'importe qui doit être soigné. Vous arrivez dans un hôpital, on vous prend, on vous soigne. L'hôpital public, c'est ça.
C'est
complètement menacé. On a déjà essayé de toucher à l'aide médicale d'État pour les étrangers, même sans papier. On a essayé déjà de toucher des tas de trucs. On a essayé de toucher aux ALD, hein, qui permet d'exonérer les maladies chroniques à 100%. On a essayé de rogner. On rogne là-dessus, on rogne sur le personnel de l'hôpital, sur le fonctionnement de l'hôpital. Et on ne fait pas de prévention appropriée. Et voilà le gros dilemme de notre système de santé à l'heure actuelle.
C'est ça.
Les politiques, ils ne devraient pas s'en occuper. On devrait laisser ça à la fois aux soignants et aux malades. Quoi. Ça, j'en suis convaincu. Parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent.
Et
la santé, c'est quand même ce qui fait la force d'une population.
Oui. Ça, la jeunesse et tout, qui s'en prend plein la tête aussi. Mais c'est vrai, justement, par rapport à l'ALD et tout, quand il y a des effets secondaires, et que ben, si c'est pour te soigner le foie ou la jambe ou le cœur ou tout ça, si tu as des effets secondaires ben, sur tes dents ou sur tes cheveux, c'est pas pris en compte, quoi.
Absolument. Je veux dire, il y a un certain nombre de produits qui sont indispensables quand on a un traitement pour une pathologie qui vont produire des effets indésirables qui peuvent se corriger avec d'autres produits. Mais comme ça n'a pas un lien direct avec la pathologie, bon, on ne rembourse pas à 100%. Et le cas le plus effroyable, c'est que avant, pour pouvoir être soigné, on était obligé de faire une biopsie du foie quand on avait une hépatite C. On prenait un petit morceau de foie. Donc c'était quand même un truc lourd. Il fallait rester une journée à l'hôpital. Il pouvait y avoir des accidents, hein, des hémorragies, des trucs. C'était pas sans danger. Mais... Et puis, les Français, il y a un professeur à Paris, Poinard, qui a inventé un truc super. À partir de 5 examens de sang, s'ils pouvaient remplacer partiellement, on va dire pas à 100%, mais au moins à 80% la biopsie. C'est l'idée de piquer le foie sur une simple prise de sang. Puis on a un autre appareil qui s'appelle FibroScan, qui est inventé par un Français, qui mesure l'élasticité du foie grâce à une sonde. C'est comme si on faisait une écho, ça dure 5 minutes, ça, c'est génial, et ça évite la biopsie. Et dans les 5 marqueurs de... qui permettent de... Il y a la polypoprotéine. Et la Sécurité sociale, la Caisse nationale, ils ont dit ça n'a rien à voir avec le foie, ça a à voir avec les graisses. Or, c'est indispensable, parce que, quand même, la régulation des graisses, c'est fait par le foie, mais c'est aussi con que ça. Et ce qui fait que, quand un malade fait ce truc-là, ben, il y a un truc qu'on lui rembourse pas. Donc, comme c'est fait avec un ordinateur pour calculer le rapport en différents trucs, on compte pas le prix de l'ordinateur, enfin, le prix de... du brevet, et ainsi de suite, qui appartient à un hôpital public, en plus, le brevet. C'est pas un particulier.
Oui.
Donc, le malade, il en a pour 60 euros de sa poche, non remboursé.
Oui, c'est ça.
Alors que, on évite une biopsie qui va coûter 1000 fois ça, quoi.
Bah ouais, mais c'est ça.
C'est de la folie furieuse, quoi. Quelqu'un qui est bien surveillé, qu'on évite d'aller à la transplantation, ça a été modélisé par des économistes, on sait, par exemple, que on va faire gagner à la société... en évitant d'aggraver sa maladie et d'aller à la grève du foie, et les journées perdues, et ainsi de suite, et tout. On a des modèles économiques pour calculer ça. On sait qu'on va économiser, par exemple, un demi-million d'euros en lui donnant un traitement qui va coûter 50 000 euros. Eh ben non.
Mmh.
Je ne suis pas assez malade pour qu'on lui donne le traitement, donc voilà. C'est le cas aussi de la substitution aux opiacés, quoi. La substitution aux opiacés, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de politiques qui voudraient bien ne plus voir de subutex donné aux usagers de drogue pour remplacer l'héro ou de la méthadone. Alors qu'on sait que depuis qu'il y a la substitution, eh bien ça fait gagner au niveau de soins, au niveau overdose, trucs comme ça, et même des lits, parce que les gens n'ont plus besoin de braquer des vieilles pour y voler des sacs. Et la solution, c'est génial,
ça permet
l'accès aux soins à des gens, ça permet de voir leur santé, ça permet à des gens de s'en sortir quand ils ont envie de s'en sortir, ainsi de suite. Et elle est constamment remise en cause. On préfère foutre les mecs en taule, on préfère arrêter les tox, on préfère... Voilà, ça c'est la politique qu'on a depuis des décennies, quoi.
Mais comme le cannabis thérapeutique, ils veulent pas en entendre parler non plus, hein.
L'éducation thérapeutique, ça devrait être... C'est dans les textes en plus. il n'y a pas de décret de disposition. Une infirmière qui fait de l'éducation thérapeutique, qui a été formée, elle a fait des stages, des machins, elle n'est même pas reconnue. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de facturation possible, il n'y a pas de...
Non, je te disais le cannabis thérapeutique. Oui, excuse-moi, parce que j'ai des problèmes de micro en plus.
Alors là, je sais qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou, il y a un médecin qui mène une étude depuis longtemps avec des gens qui ont, entre autres, il y a des traitements de l'hépatite, VIH, CEP, qu'est-ce qu'il y a, polyarthrite.
C'est ça.
Et donc c'est, cancer, c'est avec des pchit, je sais pas comment on appelle ça, un inspirateur, un machin. Donc on a isolé les principes actifs qui sont intéressants, parce que tout n'est pas intéressant dans le cannabis. Hein. Mais là, il y a des résultats prodigieux, mais jamais on les publiera, enfin on les montre pas, on les dit pas. Mais c'est vrai que des gens qui, par exemple, l'interféron, ça provoque une putain d'anorexie, t'as plus envie de bouffer, rien du tout.
Tout à fait.
Moi, je me souviens d'une mamie, c'est son petit-fils qui lui faisait un joint, quoi, de l'herbe pure. Elle tirait un joint, elle bouffait, quoi.
Ouais, c'est
ça. Mais si je veux manger, ben, je tire sur un joint.
Ben voilà, moi, c'est pareil. Et puis pour dormir aussi.
Pour dormir
quand
aussi.
Quand tu sors de chimio et tout, ben, tu manges, tu dors, t'es moins stressé, t'as moins mal partout. Parce que justement, quand t'as des raideurs dans les jambes et tout, ben ça te détend vachement.
Alors,
tout.
Ça, c'est pas de mal à l'œil.
C'est pas arrivé, hein, mais je vois, en Hollande, par contre, je crois, c'est même remboursé par la sécu là-bas.
Il y a des états, bon, en Californie, par exemple, on peut aller, quand c'est sur prescription, on peut aller chercher à la pharmacie, et t'as le droit d'avoir sur toi une certaine quantité. J'ai en donné pour les gens qui ont le glaucome aussi. Mais ici, c'est la morale. Un truc tout simple, par exemple, nous, cette année, pour la journée mondiale des hépatites, avec l'association ASUD, l'association autosupport usagé de drogue, hein, et puis SOS Hépatite Paris-Île-de-France, et puis IRN, on a fait une salle de shoot, ça a duré une journée, quoi. Alors, les salles de shoot, c'est une idée, en Suisse, ça fonctionne depuis des années, à Zurich, à Bâle, à Genève, ainsi de suite. On demande ça à l'État depuis des années, on dit oui, ça a l'étude, machin et tout, mais ils veulent pas. C'est-à-dire que le mec qui est dans la rue, au lieu de se piquer avec du matos dégueulasse, et de se bousiller, il va à un endroit, on lui donne, il peut se laver les mains correctement, même se laver, tout, lui donner du matos propre, lui expliquer comment on shoot propre, éviter d'avoir des complications, et même avoir accès à un soignant pour d'autres problèmes, d'autres petites pathologies annexes. Eh ben non. Non, vous n'allez quand même pas donner la drogue et les moyens de se droguer aux drogués, quand même.
Bah non, vous allez les tuer par autre chose, enfin.
C'est comme si la toxicomanie était un vice, alors qu'on sait depuis des décennies que c'est une maladie, c'est pas un vice.
Bah non, c'est eux.
Mais c'est une maladie qu'il faut pas soigner, il faut foutre les mecs en prison.
Ouais. Bah en prison ou dans les mouroirs aussi.
Ouais.
Et puis,
moi, j'ai vu le travail qui est fait sur Zurich, qui est remarquable, quoi. J'ai eu l'occasion de rencontrer un mec qui était à l'origine de ça, et des médecins. Ils ont un bus qui circule, les pathobus, ils font du dépistage gratuit des hépatites, ils fournissent le petit matériel, ils informent les gens en plusieurs langues. Enfin, ils font un vrai boulot, où ils ont une réduction des risques, où ils ont évité énormément de complications, il y a de l'accès aux soins, c'est le même phénomène pour la prison en France.
L'information,
en France, on dit non, il n'y a pas de drogue en prison, donc pas d'échange de seringues.
Les mecs,
ils savent fabriquer avec un stylo vite, une aiguille, un machin, ils savent fabriquer une pompe.
C'est ça.
Mais on se ferme les yeux.
C'est ça.
Et donc, ils s'infectent en prison.
C'est pas grave, c'est des mal. Et donc, Donc, l'émission est bientôt finie, Michel.
Très bien.
Donc, je te remercie beaucoup.
De rien, à ton service.
Et donc, si tu peux donner je vais y arriver. Hein. Bah, tu vois la maladie, quand on est malade, en plus on lit mal parce qu'on a les yeux qui foirent et tout. Après, c'est super chiant. Et si tu pouvais même nous donner tes liens internet, tout ça.
SOS hépatite avec un S au bout tout attaché. Hein. SOSHEPATITES.org. Et là, il y a tous les téléphones verts et gratuits de l'asso. Le site est énormément documenté. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus.
Oui, tout à fait, avec toutes les adresses, justement. Pour ceux qui nous écoutent sur le net, il y en aura Sûrement une près de chez vous, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs, Michel.
Non, on a aidé à créer. Il y a SOS Hépatite Algérie, qui fait un super boulot en Algérie. Il y a SOS Hépatite Maroc. Il y a au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal. Il y a SOS Hépatite Portugal. On est cousins aussi avec une asso en Belgique qui s'appelle Partager entre êtres, enfin chaque CHAC, qui on a des liens étroits avec l'association roumaine. Enfin, on a des liens, on essayait de créer une internationale.
Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, c'est internationaliste.
Oui, on est international, le virus n'a pas de frontières.
Exactement, nous
les
non plus.
Les virus n'ont pas de frontières, pourquoi on ne doit pas en avoir?
C'est clair, les maladies n'ont pas de frontières, donc pourquoi est-ce que nous on en aurait, bordel?
Alors, le seul mec qui sait ça, et il a des solutions qui sont évidentes, il s'appelle Le Pen.
Ah bah.
Lui, il sait que le virus n'a pas de frontières, alors il veut fermer les frontières pour pas que les virus rentrent. Et puis il veut mettre les séropos derrière les murs aussi.
Derrière.
Il veut faire des sillatoriums. Bon, alors vous voyez, bon, la dimension de pathologie, quand même, 170 millions de personnes ont une hépatite C dans le monde. 170 millions de personnes. Donc le virus, il se fout pas mal de il voyage. Hein.
Des nains, des gros bornes, des petites.
Lui, il va où il veut.
Ouais, ça c'est clair. Et puis nous aussi, d'ailleurs, bientôt.
Donc voilà pourquoi on essaie de faire un peu une internationale des malades.
Et ouais, faut que je la rejoigne.
Ça marche. Moi, ce qu'on sait faire ici, ça aide certains. Et ce que les autres savent faire, nous, on essaie de s'en servir. C'est bien de confronter ces idées.
Ouais.
Moi, j'ai vu que les Brésiliens, j'ai rencontré un activiste brésilien, il fait un boulot mais remarquable, en disant, de toute façon, on ne peut pas compter sur l'État. Et ils arrivent, en se faisant aider par des mecs qui ont un peu de rond, à acheter des médicaments pour des pauvres. Ils achètent des génériques à Cuba, qui valent, mais attends, la gélule qui vaut 3 euros ici, eux, ils l'ont à 3 centimes, quoi.
Ouais.
Pour payer. C'est remarquable, quoi. Et donc, ils font des bouquins sans passer par un éditeur. Ils disent, ils ont une collection d'adresses comme ça. Il y a 10 000 mecs qui disent, il faut vous donner chacun un euro, on va publier un livre pour aider les malades. Bing. Nice. Et ils donnent le bouquin gratuitement. Ils passent au-delà du pas d'éditeur, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de contrôle. Et le bouquin, il est donné. Ils ne veulent même pas le vendre dans les librairies, ils n'en ont rien à foutre.
Bah ouais, c'est clair.
C'est un malade qui en a deux, il a donné 2 euros, il en a deux. Il en donne un à un autre malade, et c'est l'autre, ça lui plaît, il renvoie 1 euro, il en a un. Voilà.
C'est clair.
C'est un principe qui est génial, ça court-circuite tous ces gros cons.
C'est clair.
Et tu peux écrire ce que tu veux, en plus.
Bah ouais, c'est libre, c'est immense.
Voilà.
C'est clair. Bon.
Très bien.
Bah, donc l'émission s'achève, donc au mois prochain théoriquement, ou dans 15 jours, je n'en sais pas, je n'en sais rien, demain c'est loin, n'est-ce pas, donc
demain
on verra tout ça. Hein?
Demain il fera jour.
Voilà, demain il fera jour. Et bah, sur ces bonnes paroles Michel, et bah, merci beaucoup, et puis au revoir à tous et toutes, et sortez couverts.